Bonsoir et bienvenue sur Ondes Noires, l'émission la plus rock de la bande FM, mais c'était l'émission Polar, j'ai oublié un mot important. Jacques Demeaux ?
Oui, à propos de Polar et de rock, en fait, on voudrait dédier cette émission à François Chassanit, qui était un trompettiste jazz qu'on avait croisé plusieurs fois. Il avait joué dans les festivals Polar qu'on avait organisé il fut un temps, et c'était aussi un être humain fort agréable,
sympathique, très chaleureux.
Voilà,
il va manquer à la planète jazz de la Côte d'Azur et à la planète jazz tout entière, parce que c'était un grand trompettiste. Voilà, on lui dédie cette émission. Donc, dans cette première partie d'émission, la chronique qu'on va faire va être un petit peu différente de d'habitude. D'abord parce qu'on va vous cacher d'abord les titres des deux romans dont on va vous parler. Jacques va vous parler d'un, moi je vais vous parler de l'autre. Et puis ces deux livres se croisent et s'entrecroisent parce qu'ils évoquent l'un et l'autre des bandits. Vous savez, ces bandits qui font peur aux bourgeois et aux nantis. Et ceux pour qui les humbles et les miséreux ont une certaine tendresse. Et quand je dis que ça va se croiser et s'entrecroiser, c'est que ces deux romans sont d'auteurs au style, on peut dire, très très différent. Je dirais même que c'est presque l'opposé l'un de l'autre. Les époques à laquelle ont été écrits ces livres-là et à laquelle ils sont parus sont très très différents. Et pourtant, le propos est étrangement semblable. Donc comme je vous l'ai dit, on va un petit peu brouiller les pistes et on ne va pas tout de suite vous dire ni l'époque, ni les auteurs, ni les titres évidemment, parce que peut-être ça vous mettrait sur la voie. Enfin, je crois que tu vas faire ça, Jacques.
Oui,
c'est toi qui vas commencer par parler du premier roman, et donc simplement un bandit quelque part en Europe. Voilà, Jacques, à toi.
Oui, donc ce premier roman se passe en Sicile, et contrairement au roman dont on vous parle d'habitude, il n'y a pas le commissaire Montalbano. Pourtant, on y mange bien et on y boit bien quand même. Par contre, il y a des meurtres, même des viols, des poursuites, une femme fatale, de la corruption, mais aussi un brigadier intègre, si, si, absolument, et la vengeance. La vengeance qui est quand même un des thèmes récurrents du polar.
C'est vrai que là, tu donnes toutes les clés d'un roman policier de nos jours.
Voilà. Ce bandit, qui est sicilien, donc, c'est plutôt en fait un brigand. Il s'appelle Pascal Bruno. C'est en fait un révolté. Faut dire que on a tué son père parce qu'un oubliot avait violé sa femme, enfin la femme du père, et qu'il avait voulu se venger, le père, donc il avait voulu se venger. Mais déjà, à l'époque, la justice n'était pas la même pour tous. Et voilà, le père, lui, il était condamné.
Ça y est, tu viens de donner un indice, tu as dit à l'époque, donc c'est pas au 21e siècle.
Non, j'ai dit à l'époque, ça pourrait être en 1950, mais c'est pas en 1950.
Ah.
Alors, quand des années plus tard, un autre petit roitelet, parce qu'en Sicile, à l'époque, c'était quand même pas, ça faisait pas partie de l'Italie complète, ça vous donne aussi une petite indication. Quand ce petit roitelet lui pique sa fiancée, sa promise...
C'est pas un oiseau.
Eh ben non. Le brave Pascal, Pascal Bruno, il pète les plombs et on dirait maintenant, il passe de l'autre côté de la force. Et l'auteur va donc nous raconter, dans son style si particulier, la révolte de Pascal Bruno. En fait, il en fait une espèce de Robin des Bois, qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Il en fait aussi peut-être un des précurseurs de la mafia en bonifiant quand même les bons côtés, l'entraide, le code d'honneur, etc. Il y a aussi un tout petit côté Zorro, en ce sens que quand il détrousse les riches, les puissants, il les ridiculise aussi un petit peu. Et puis, il parle de la Sicile et de Palerme d'une façon que ne renieraient pas nos auteurs palermitains actuels. Je vais vous lire juste ce qu'il dit de Palerme en page 30, donc c'est tout au début. « Aussi n'est-il rien de plus beau que les jours de Palerme, si ce n'est ces nuits, nuits d'Orient, nuits transparentes et embaumées, où le murmure de la mer, le frémissement de la brise, la rumeur de la ville semble un concert universel d'amour, où chaque chose de la création, depuis la vague jusqu'à la plante, depuis la plante jusqu'à l'homme, jette un mystérieux soupir. Monté sur la plateforme de la Ziza ou sur la terrasse du Palazzo Reale, lorsque Palerme dort, il vous semblera être assis au chevet d'une jeune fille qui rêve de volupté. » Ah bien sûr, ce n'est pas tout à fait le style de nos écrivains
contemporains.
Contemporains, Mais bon, je peux vous le dire maintenant, le roman date de 1837. L'auteur à l'époque était un tout jeune auteur, car ce roman, qui s'appelle donc Pascal Bruno, vous avez peut-être deviné, est pratiquement, quasiment son premier roman.
C'est son premier roman.
Et il est paru en feuilleton. Et le nom de son auteur, qui est un grand feuilletoniste à l'époque, c'est Alexandre Dumas. Vous le connaissez, le père, évidemment.
Et voilà.
Alors vous allez dire, oui, Alexandre Dumas, Don de Noir. S'il était besoin de se justifier, je pourrais dire que dans le livre de référence des amateurs de polar, qui est le dictionnaire des littératures populaires, il en a près de 3 pages, Alexandre Dumas. Donc, voilà. Et de toute façon, on n'a pas besoin de se justifier.
Le Guilipo, ouvrage de Claude Mesplède. Voilà.
Et en plus, c'est un très beau roman, presque nouveau, puisqu'en fait, il était inédit, du moins dans cette forme-là, depuis plus d'une centaine d'années. Je ne vais pas vous raconter la suite des aventures de Pascal Bruno, vous les lirez.
On espère, tout du moins.
Par contre, je voudrais juste vous recommander, si vous achetez le livre, et vous allez l'acheter ou l'emprunter à votre médiathèque préférée, surtout, ne lisez pas la préface, ou du moins avant d'avoir lu le livre. Car la dame qui l'a écrit est très probablement universitaire respectable, mais je crains qu'elle ne respecte pas les futurs lecteurs du roman, car elle dévoile dans la préface la totalité de l'intrigue et des moments forts du livre. Comme si le lecteur n'était pas capable de les comprendre. Par contre, s'il avait été en postface, ça aurait été pas mal parce qu'elle replace le livre dans son contexte historique et nous donne les infos qui renforcent la lecture. Mais pas avant, madame.
Non, voilà, ouais. un petit
les, détail. Voilà, et les amateurs d'Alexandre Dumas, et il y en a, je suppose, qui nous écoutent, levez les doigts, reconnaîtront dans cette histoire, en plus, quasiment les prémices de ce qui fera son chef-d'œuvre, du moins en tous les cas, c'est comme ça que moi je le considère, le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, c'est-à-dire le Comte de Monte-Cristo.
Aussi une très grande histoire noire, selon certains.
Et de vengeance.
Voilà, alors peut-être ce que tu as oublié de dire quand même, et ce qui est important, parce que c'est un beau travail d'éditeur, c'est l'éditeur.
Voilà, je vais le préciser, donc ce livre donc, de Pascal Bruno d'Alexandre Dumas est publié aux l'éditeur ce qui s'appelle La Fosse aux Ours, et il vaut 16 euros.
Et la couverture est un petit bijou.
Tout à fait.
C'est un très très joli, je dis petit roman, petit par le format, hein, mais sinon c'est vraiment, la couverture est avec très très belle.
Avec une petite vignette, tout à fait.
Comme ici, un roman d'ailleurs du 19e siècle, et comme souvent c'est le faire aussi La Fosse aux Ours, parce que les quelques romans dont on a parlé ici sont toujours très joliment, la couverture est toujours, la maquette est toujours bien réalisée. Un petit peu de musique.
Donc avant de passer au deuxième roman dont tu parlais tout à l'heure, puisqu'on est en Italie, on va mettre un musicien italien, puisqu'on est l'émission polar la plus rock de la bande FM, on va mettre un morceau de jazz.
Décidément, tu justifies tout avec une...
Un morceau de jazz d'un pianiste italien, qu'on était en Italie, qui s'appelle Giovanni Ceccarelli, qui n'a rien à voir, a priori, avec les Ceccarelli de notre région. L'album qui vient de sortir, tout comme le morceau, s'appelle Météor.
Thank you.
Voilà, Giovanni Ceccarelli, un pianiste d'une sensibilité, d'une élégance rare. Je voulais juste signaler que le bassiste s'appelle Ferruccio Spinetti, que vous connaissez peut-être parce que c'est la moitié du duo de Musica Nuda.
Si vous écoutez cette émission, vous le connaissez forcément, voilà. Puisque nous sommes fans de Musica Nuda et que nous les passons quand même assez régulièrement.
À toi Corinne, parle-nous de ton livre. Donc,
deuxième livre où il est question de bandits. Et puisque j'ai dit qu'on allait un petit peu croiser les itinéraires, c'est grâce à un extrait du livre dont Jacques vient de vous parler, donc le livre d'Alexandre Dumas, que je vais introduire l'autre bouquin. Voilà pourquoi le bandit espagnol et italien est à la fois si poétique et si populaire. C'est que d'abord, c'est presque toujours quelque grande douleur qui l'a jeté hors de la voie. C'est qu'ensuite, son poignard et sa carabine tendent à rétablir l'équilibre divin, faussé par les institutions humaines. Le bandit, donc comme l'appelle ici Alexandre Dumas, en des termes peut-être un petit peu fleuris, ici, celui dont je vais vous parler, il est français. Et je vais vous parler du destin d'André Soudy, un pauvre môme tuberculeux. C'est un commis en épicerie et il ira en prison pour une boîte de sardines. Et le pire, c'est qu'il ne l'a même pas volée. Il va donc se révolter, lui et quelques copains. C'est vrai, en fait. Si on réfléchit bien, pourquoi s'user au travail, y laisser sa peau, pendant que les nantis à côté n'ont même pas la décence de cacher leur opulence au crève la faim. Crever pour crever, de toute façon, autant essayer de s'en sortir un peu différemment. Le premier écrivain, donc Alexandre Dumas, parle, comme je l'ai lu dans l'extrait, de cet équilibre faussé par les institutions humaines. Ici, par le biais de l'auteur, Soudy explique que c'est le déterminisme social qui l'a poussé vers le crime. Et il le raconte à propos du vol de la boîte de sardines. Mais sardines étaient libératrices. Une toute petite libération parce que c'était un tout petit crime. Je ne pouvais pas m'en tenir là. On ne se libère pas vraiment avec les sardines. Donc, pour se libérer un peu plus, il va rejoindre des libertaires, des anarchistes, Raymond, Jules. Encore quelques mois, encore un malentendu, et il va être surnommé l'homme à la carabine. Et voilà, c'est le livre, c'est le titre du roman dont je veux vous parler. C'est le titre d'un livre du dernier roman de Patrick Péchereau. Raymond, c'est Raymond La Science. Jules, c'est Jules Bonneau. On est en 1913, et c'est avec grand talent et beaucoup, beaucoup de délicatesse que Patrick Péchereau va reconstituer l'histoire de la fameuse bande à Bonneau. Et il utilise un truc, enfin c'est pas un truc, il utilise une astuce géniale à mon avis, c'est que c'est par le prisme du plus faible d'entre eux, André Soudy. Voilà comment il le décrit quand il montre, puisque ce livre est émaillé de photographies, d'époque évidemment, il commente la photo. Tu es de côté, André, tu l'as toujours été, à côté des autres, à côté de la vie, à côté de toi-même, jusque dans la souffrance, quand tes poumons se déchirent et qu'à ta tête, le sang résonne comme un glas. Je rappelle, je l'ai dit au départ, que ce bandit est tuberculeux et qu'à cette époque-là, on n'en réchappe pas. Et là, vraiment, grande virtuosité de l'auteur, c'est par petites touches, en un récit imbriquant de multiples narrations et époques, puisque Péchereau raconte l'histoire de la bande à Bonneau, mais il parle aussi des films tirés de leur histoire, des chansons, il parle même de Georges Brassens, un art s'il en fut, et l'écrivain va donc nous narrer petit à petit ce destin au milieu d'autres destins. Je cite encore Patrick Péchereau, le jour où il raconte la dernière journée de André Soudy. Ne plus jamais rêver est inconcevable. Chacun de ceux qui ont essayé de réaliser quelques rêves, de peindre quelques couleurs à leur vie, ne serait-ce que par amitié, par amour, vont le payer cher. Le paieront cher et le payent toujours cher. Les époques changent, mais on n'a pas vraiment beaucoup évolué. Le sous-titre de ce roman, c'est « Esquisse ». Je dirais que c'est une humilité de l'auteur qui sait que les mots, les phrases, ne pourront jamais, jamais vraiment reconstituer les tragédies humaines. En fait, Patrick Péchereau ne devrait pas du tout être modeste, car à force d'épure dans le style, il trouve vraiment le ton juste et ça marche du début jusqu'à la fin. Un ton mesuré presque à l'économie, et c'est pas péjoratif, mais qui laisse passer de la révolte, de la colère, mais aussi de l'amour, de l'amitié, et encore de la poésie. Rimbaud n'est pas loin, Prévert non plus. C'est une esquisse littéraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, accompagnée de quelques instantanés, quelques clichés d'André Soudy, quelques documents d'époque, comme on dit. Et surtout, surtout, quand on va parler de ce livre, il ne faudra surtout pas parler du mot biographie. À mon avis, ce serait vraiment une grave erreur. Je dirais que c'est plutôt une évocation, à la fois très forte et très fragile. Évocation qui parle des êtres humains, mais qui nous plonge aussi dans l'époque de l'entre-deux-guerres. Et on est constamment aux côtés de ces personnages, dans leurs pensées, dans leurs drames, mais aussi quand même, brièvement, dans leurs sourires. Je crois que vous aurez compris que c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu, et je vous le recommande. Donc c'est le dernier roman de Patrick Pechereau, son titre en est « L'homme à la carabine », et c'est paru chez Gallimard. Attention, je dis bien Gallimard sans préciser, parce que c'est la collection, comme on dit, la collection blanche, NRF, puisque nous, quand on parle de Gallimard, c'est souvent la série noire. D'ailleurs, Patrick Pechereau a publié des romans à la série noire.
Et il publiera probablement encore.
Et il en publiera d'autres, on l'espère. De toute façon, d'autres romans, ça c'est sûr. Et voilà, très belle couverture aussi. On parlait de celle de La Fosse aux Ours. Voilà, vous avez André Soudy qui vous vise, mais ce n'est pas vous qui le vise. Voilà, on a peut-être juste le temps. Je voulais qu'on rappelle notre site, le site de La Noiraude et le site d'Europolar, mais on a à peine le temps de donner les adresses, donc chaque
www.lanoiraude.com et le site de l'émission www.ondenoir.com au pluriel, onde noire.
Voilà, où vous retrouvez toutes ces rubriques. Merci, à tout à l'heure.